Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
Chef 2 étoiles au sur-mesure, le restaurant du Mandarin à Paris. Et vous avez choisi pour cette nouvelle émission, l'Histoire à la carte, d'évoquer l'année 1981. Pourquoi ?
Changement politique, on voit arriver Mitterrand au pouvoir. Moi je rentre du Liban.
Vous étiez parachutiste au Liban ?
Oui,
à la finule.
Et puis on se demande, c'est quoi ce pays dans lequel on rentre, qui change,
ouais.
On sent qu'il se passe quelque chose là aussi.
Vous étiez cuisinier déjà ?
Non, j'ai été pâtissier avant tout ça. Et puis je sentais qu'il fallait que je retrouve un projet et qu'il fallait aller vite.
Nostalgie quand tu nous tiens, voici ce qu'on écoutait en 81. Tainted Love, le groupe Soft Cell qui est resté 30 semaines numéro 1 des charts en 80 avec ce titre. Le début des années 80 furent fast en restauration ?
Plutôt, on parle d'une nouvelle cuisine, on est à fond dans la cuisine, on est à fond dans les chefs. Donc on parle cuisine, on fait la cuisine et ça commence là aussi à être un métier qui fait rêver. Donc c'est plus un métier à l'ancienne. Et puis surtout, on comprend qu'il va y avoir une autonomie dans ce métier. Donc on voit dans l'hexagone un certain nombre de chefs qui s'émancipent de chez leur employeur et qui montrent leur première maison. Donc on va penser à des gens comme Michel Tramard, on va penser à des gens comme Michel Guérard, toutes ces maisons qui vont fleurir en France et les Français vont découvrir une cuisine touristique finalement.
10 mai 80, la page se tourne en France, il est 20h, votre télévision est allumée.
5, 4, 3, 2, 1, François Mitterrand est élu président de la République. 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%.
Jean-Pierre Elkabbach et Étienne Moujotte qui ont annoncé le résultat sur Antenne 2. Question idiote un peu peut-être Thierry Marx, mais est-ce que dans les familles, la cuisine subit l'influence des couleurs politiques ? Est-ce qu'on mange la même chose à droite, à gauche ?
Je pense que le cadre familial reflète un petit peu, entre guillemets, le cadre politique de la famille. C'est-à-dire qu'on va avoir une cuisine assez conservatrice dans certains foyers et puis, je dirais, plus déluré dans le bon sens du terme, dans d'autres, plus ouvert.
Plus révolutionnaire, peut-être ?
Plus évolutionnaire, je dirais.
Ah, évolutionnaire.
Plus évolutionnaire.
Et le fast-food continue à se développer dans ces années-là ?
Et le fast-food continue à se développer parce qu'il se développe, parce qu'aussi arrivent les grandes crises du chômage, peu d'argent, il va falloir aller vers une restauration moins chère.
La preuve, le premier salon de la restauration rapide ouvre à Paris, événement qui mérite un reportage sur France Inter, reportage que nous avons plaisir à diffuser dans l'Histoire à la carte.
Festival du cornet de frites, du croissant chaud et des hamburgers, porte de Versailles à Paris, à l'occasion du premier salon de la restauration rapide, ce que les Anglais et les Américains surtout appellent le fast-food, avec des cibles bien particulières. Par exemple, Gabriel Milesi, les 9 dixièmes de ceux qui fréquentent ces établissements ont moins de 30 ans. Pas forcément parce que c'est bon, mais certainement parce que ce n'est pas très cher.
Effectivement, ce genre de repas ne coûte que 15 francs en moyenne, des prix imbattables.
Le prix, Thierry Marx, c'est vraiment l'argument fort pour cette restauration rapide ?
Cette restauration, oui, mise sur le prix et pas sur la qualité. Et mon grand regret, c'est qu'à cette époque, les chefs connus aient méprisé finalement cette tendance et ne s'y soient pas intéressés suffisamment, or qu'ils auraient pu prendre la main tout de suite. Et là, ils ont laissé un peu l'industrie faire et on s'est fait un peu damer le pion.
Passons à un grand chef de l'époque que vous vouliez évoquer, Jean-Marie Amat, pourquoi ?
Parce que Jean-Marie Amat fait partie de ces cuisiniers d'auteurs. La génération Amat, c'est effectivement la génération Chapelle, comme on l'a évoqué plusieurs fois, la génération Jacques Maximin et bien d'autres. Mais c'était un cuisinier qui avait une vraie sensibilité et surtout, c'était pas un copieur, c'est pas une pompe à vélo, comme on dit dans le métier. C'est quelqu'un qui assumait son terroir et puis qui avait un vrai toucher de produits bordelais et qui a été le premier chef à s'associer avec un architecte, un grand architecte, Jean Nouvel, pour créer le restaurant de ses rêves et qui va mettre en relief cette ville de Bordeaux au niveau de sa gastronomie, or qu'on ne connaissait Bordeaux qu'au niveau de ses vins.
Jean-Marie Amat qui évoque ici sa manière d'inventer la nouvelle cuisine.
Il faut laisser aller son instinct et il faut laisser aller aussi son savoir-faire. Mais son savoir-faire personnel, pas faire la cuisine. Tout le monde connaît l'histoire de la nouvelle cuisine avec des langoustines qu'on mangeait de Dunkerque à Marseille, en passant par le Massif central, la Suisse et tout ça. Il y a eu des époques comme ça. Il y a encore des époques comme ça. Un produit nouveau sort et hop, ça fait une traînée de poudre.
Jean-Marie Amat dans l'émission Alter Ego sur France Inter. Son château de Lormont reste enfin toujours ouvert, le château de Lormont.
Oui, mais sa première création, ça avait été le Saint-James.
Quelle recette maintenant, Thierry Marx, pour rappeler cette année 1981.
Club sandwich qu'on va revisiter. De qualité, on va savoir qu'un bon pain, un bon morceau de poulet froid, une bonne mayonnaise, une bonne salade, une bonne tomate.
La mayonnaise ?
Une mayonnaise maison avec du blanc d'œuf.
La recette sur franceinfo.fr et l'émission L'Histoire à la carte à réécouter sur tous les sites de podcast. Merci Thierry Marx.
Merci.